Vous écoutez tout ça sur l'actualité au 22 mars 2026, enregistré le 23 mars 2026. Clairement, j'ai de la difficulté à combiner tout ce qui se passe dans ma vie avec le fait d'enregistrer sur une base régulière le dimanche comme pour permettre la diffusion le lundi matin. Bref, on va voir ce que ça va donner les prochaines semaines, considérant que je suis en beaucoup de déplacements dans les prochaines semaines. Je vais commencer par une petite peut-être clarification parce que j'ai eu un message sur l'épisode sur l'actualité de la semaine dernière sur lequel la personne était un peu dérangée sur le fait que j'émette des opinions sur le podcast. Cet épisode sur l'actualité spécifique est vraiment une tribune que j'utilise pour commenter l'actualité. Donc effectivement, il y a de l'opinion à travers les actualités que je mentionne sur le podcast, sur cet épisode-ci, justement sur l'actualité. Donc, puis il est séparé, si vous voulez ne pas avoir cet élément-là, vous pouvez vous abonner séparément aux autres volets qui sont du podcast, si ça ne vous intéresse pas de m'entendre charler ou commenter l'actualité. Pour ceux qui veulent de l'actualité pure et dure de façon francophone, il y a Radio Cicert. Qui est disponible, que je mets dans les show notes, qui est excellent en termes de contenu, mais qui vraiment se limite à relater les faits et ne va pas dans l'opinion comme ce que je fais. Et par ailleurs, puis peut-être parce que je ne le mentionne pas assez bien ou assez clairement, le fait que je mentionne mes opinions par rapport à un sujet ou une actualité en spécifique n'est pas un énoncé de vérité, mais un énoncé qui veut ouvrir le dialogue avec les personnes. Ceci est peut-être moins clair pour certaines personnes. Pour d'autres, l'ont été plus parce que j'ai des dialogues très intéressants qui se sont ouverts sur des sujets ou des opinions que j'ai émises qui parfois n'étaient pas bien alignées avec le réel ou pas suffisamment appuyées par des éléments factuels. Donc, ça permet ce débat-là, cette conversation-là ou ce dialogue qui s'ouvre avec la personne avec qui veut échanger justement sur des points qui ne sont pas. Donc, c'est toujours vraiment dans cette perspective-là de dialogue que j'ouvre, que je mets que je commente essentiellement. Donc, si vous désirez réagir à ces éléments-là, soit en privé, c'est préférable parce que ça a une discussion beaucoup plus ouverte et souple, ou en public, si vous voulez un peu plus de dynamisme, si vous voulez, sur la conversation, plus qu'un dialogue en l'occurrence. Donc, vous êtes toujours bienvenu de le faire de façon toujours bienveillante et de façon là, authentique et non hostile, si on veut, un peu justement pour amener cet espace de conversation et de dialogue qui permet de faire avancer. Bref, fin de la parenthèse. J'espère que la personne qui a écouté, en tout cas, bref, elle a mentionné qu'elle cesserait d'écouter, malheureusement. Mais cela étant, je suis désolé, s'il y en a d'autres qui sont dans cette perspective-là, vous avez toujours les opportunités, comme j'ai mentionné. Et c'est vraiment dans une perspective d'ouverture du dialogue et non dans une espèce d'énoncé de c'est les faits et c'est comme ça et comme la vie. Bref, fin de ça. Shameless plug, 31 mars au 2 avril, Incyber, c'est à nos portes. J'ai très hâte, mon voyage a commencé à se préparer, j'ai plusieurs rencontres. Encore une fois, si vous désirez, je vais me prendre beaucoup, notamment sur le kiosque de Ciblex. Mais je vais me promener également sur l'ensemble du salon. Si vous voulez aller prendre des pains, des cafés, peu importe, levez la main, puis ça va vous faire plaisir qu'on se retrouve un petit moment pour discuter, pour dialoguer sur des sujets de cyber qui, est-ce que bref, ça me passionne beaucoup, ce genre de choses-là. Du 14 au 17 avril, BotConf à Reims, ça va être super intéressant. J'ai très hâte de voir ce que c'est. C'est une première expérience pour moi. Du 20 au 22 avril, ITSEC à Saint-Hyacinthe, code rabais dans les show notes si vous voulez participer. Il semblerait une petite compétition sur LinkedIn en qui est capable d'attirer le plus de personnes. Moi, j'ai aucun mérite. Je suis pas de ces calibres-là. Bref, mais si vous voulez venir me voir, je vais aborder un sujet d'intelligence artificielle. Il est en cours de concoction. Normalement, j'avais envoyé aujourd'hui ou demain mon titre et ma description justement pour que vous puissiez voir si c'est intéressant et pertinent pour de venir m'écouter chialer encore sur des affaires. En tout cas, de parler d'éléments de d'IA et de cyber. 29 avril, cyberconférence, cyberéco. 9 au 17 mai, NordSec. 3 au 5 juin, le Styx. 19 septembre, B-Side. 1 au 3 décembre, InCyber à Ottawa. Et 24-25 février 2027, le CQE revient. On revient à la même place. On est en train de concocter un certain nombre de choses. On est déjà en préparation. Je crois que cette année, les idées ont Il y a eu beaucoup de bonnes idées qu'on va rebrasser et qu'on va remixer pour l'an prochain pour améliorer encore plus la formule. Bref, fin de l'introduction. Désolé pour le très, très long introduction considérant ça. Si vous êtes en format web, vous pouvez skipper ce genre de choses-là. Bref, première section, intelligence artificielle. La première section d'intelligence artificielle, c'est vraiment plus tout ce qui est un peu tristounet au sens où on a ouvert la boîte de Pandore maintenant. Et il y a une capacité réelle de faire de la pornographie juvénile à l'aide de l'intelligence artificielle. Il y a des débats à travers ça intéressants à voir. Je crois qu'on doit les avoir. L'Europe a commencé à en avoir. Certaines autres législatures sont en train d'avoir ce débat-là exactement pour encadrer et éviter cette dérive-là qui est en train de gâcher la vie des jeunes filles principalement et donc de commencer à baliser ce qui aurait dû toujours être balisé. Là, essentiellement, là, je ne comprends pas ce qu'il y en est. Mais en même temps, il y a un aspect intéressant aussi, ça. Puis il y a deux facettes au problème. Il y a la facette que l'outil permet de générer, ça, c'est une chose. Et Grok est un énorme problème de ce côté-là. De l'autre côté, il y a tout le fait que les gens le font. Donc, c'est ceux qui le font aussi sont un peu un problème. Donc, les deux aspects sont problématiques en ce sens-là. Donc, les deux devraient être punis dans l'expérience de justement faire ce genre de choses-là et d'amener à une certaine hostilité pour les femmes et pour en plus pour les jeunes filles en l'occurrence, de cet usage-là un peu déviant de l'intelligence artificielle. À travers ça, bon, l'Europe est en train de mettre des étapes pour bannir ça, puis c'est une très bonne chose, mais j'aime moins l'approche européenne qui décrit chaque action non autorisée. Mais bon, bref, ils le font, fait que c'est important. Il y a des jeunes filles qui sont en train de poursuivre Grok, justement, dans un contexte américain, c'est la façon de faire bouger les choses. Donc, très bonne chose, justement, d'entamer des poursuites, justement, pour que ça devienne un peu plus, clarifier les choses. Et essentiellement aussi, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis sur le fait que les jeunes, entre eux autres, s'échangent des images de pornographie, entre eux autres, principalement des garçons, étant donné que c'est des jeunes en bas de 18 ans, c'est des adolescents selon la définition qui est là. Donc, c'est pas illégal au sens de la loi ou tout dépendant des lois, mais la plupart des lois ne rendent pas ça criminel, l'échange de photos nues entre adolescents ou dans un âge qui est suffisamment proche comme ça. Il y a des balises, je suis pas un juriste, fait que surtout pas en droit criminel. Donc, valider, voir qu'est-ce qu'il y en a, mais normalement, les enfants, les adolescents peuvent le faire entre eux autres. Donc, cet espace-là, il va créer un certain nombre d'autres problèmes. Je le fais que ces jeunes-là le font, mais c'est important justement que la loi européenne ou les lois à travers le monde viennent encadrer ça, parce que même si au niveau criminel, dans plusieurs juridictions, ils ont le droit de les échanger ces images-là, ça n'empêche pas que le fait de nudifier une camarade de classe ne devrait pas être autorisé d'aucune façon parce que ça vient attaquer clairement l'intégrité de la personne et l'image de la personne. Donc, on est dans deux sphères complètement différentes, mais qui sont très dommageables pour les jeunes. Et déjà que c'est déjà, dans ce cas, bref, c'est tout ça est problématique. J'ai bonne foi qu'on est en train d'aller sur la bonne track, même si on ouvre la boîte de Pandore il y a déjà quelques temps. J'espère qu'on va être capable de refermer ou de limiter les dommages qui sont associés avec ce genre de choses-là pour les personnes qui s'en viennent et les adolescentes et adolescents du futur qui auront à vivre ce genre de choses-là. Sortons de ce bloc-là qui est un peu tristounet, mais il y en a d'autres éléments aussi. Que l'intelligence artificielle, les chatbots d'intelligence artificielle favorisent la désillusion ou tout le problème de psychose au niveau du AI. On a déjà abordé cette question-là avec Cybercitoyen, c'est très intéressant, puis avec beaucoup d'éléments factuels. Cette étude-là vient réaffirmer le fait que pour le moment, c'est des gens qui sont sensibles à ce type de choses-là qui vont tomber dans ce genre de psychose-là, qui ont déjà des prédispositions à tomber dans ce spectre-là. Malheureusement, donc, ne augmenterait pas le nombre de personnes, mais expose davantage des gens qui n'auraient peut-être pas été exposés, même s'ils sont prédisposés, qui ne tomberont pas dans la psychose. Bref, c'est un débat à avoir. Et c'est très difficile, selon les études pour le moment, de bloquer cette façon-là d'amener le AI. Quoique en version 5, GPT est beaucoup plus sensible et limite un peu certains traits qui favorisent les psychoses. Donc, on voit déjà des améliorations, mais c'est un sujet qui est très complexe. Surveillez autour de vous si vous voyez des gens qui sont en train de tomber dans ces univers-là, justement pour les aider à se sortir ou d'aller chercher de l'aide pour se sortir de ces de ce secteur-là, de cet état-là, justement, avant que ça soit un peu plus problématique. Quelque chose d'un peu, on tombe un peu plus dans le cyber. Pourquoi les agents AI vont devenir un très grand support à la sécurité moderne? On l'aborde dans les épisodes avec Sequoia, notamment dans celui qui vient de sortir la semaine dernière, et un autre que j'ai enregistré et qui va sortir probablement d'ici un mois. Avec David, justement, on est capable de décortiquer comment les AI peuvent fonctionner dans cet environnement-là et comment celui-ci peut venir appuyer fortement les appuis de sécurité défensive. Donc, les agents vont commencer à être une partie prenante du quotidien des SOC du futur. Donc, c'est très intéressant de le voir. C'est pas magique, contrairement à ce qui nous est vendu, mais il y a des ajouts importants et la façon que ça fonctionne va multiplier la capacité des SOC et donc nous aider notre capacité défensive. La fraude par AI augmente la profitabilité selon Interpol. Google lance un IA pour traquer les bugs dans le noyau, donc ça a aidé à corriger un certain nombre de vulnérabilités qui étaient dans le noyau de Linux, notamment, qui justement avance. C'est très intéressant de voir cet usage-là qui est positif et qui durcit l'environnement. Et ça va être important parce que les rapports de force sont en train de se changer. On est en plein dans un point de rupture. Donc, ça va être important de justement qu'on soit capable de mieux sécuriser les systèmes parce qu'on a des agents qui vont être capables de le détecter. Puis on va voir dans d'autres nouvelles justement cet aspect-là. Okta vient régler un problème de micromanagement des agents AI. Et c'est intéressant parce que c'est une solution au niveau de l'identité des agents. Un peu le problème qu'on voit avec OpenClaw notamment, mais les autres, le fait que les agents AI ont une capacité d'accès trop élargie. Et j'ai d'autres éléments qui vont avancer là-dedans, qui vont justement, d'autres podcasts avec d'autres personnes justement qu'on va aborder cette nouveau de l'identité. Comment l'identité peut être un outil très puissant pour permettre aux agents de fonctionner tout en gardant la sécurité au-delà de ça. Et pour moi, c'est là où ça devient important et beaucoup plus que mettre un OpenClaw dans un Docker va réussir à contenir le problème davantage que sur, bref, l'identité. Fait, je suis content de voir qu'il y a des efforts commerciaux de ce côté-là. Le créateur de Signal, Marion Bunsberg, est en train de travailler avec Meta AI pour faire du chiffrement bout en bout des requêtes qui sont faites avec Meta AI. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'informations dans l'article pour être capable de qualifier ou savoir qu'est-ce qui est fait exactement. Mais au minimum, on sait qu'il y a une personne reconnue du domaine, donc le créateur de Signal, a justement contribué. Donc, ça va favoriser cette protection-là, que les chats avec Meta AI vont être protégés d'un chiffrement à bout en bout. Mais j'ai très hâte de voir l'implantation parce que je vois un certain degré de complication, mais étant donné que c'est des gens très brillants, j'ai très hâte de voir ce qui va sortir de cette collaboration-là. Un AI voyou, rogue en anglais, aurait créé des incidents majeurs chez Meta, notamment en donnant accès à trop de monde à des informations sensibles des utilisateurs de Facebook probablement et de toutes les plateformes de Meta. Donc, un agent aurait fait faire un changement en production qui aurait amené à ce genre de situation-là. Donc, on est encore dans un cas comme AWS qui avait connu un incident, même s'ils disent que ce n'est pas un incident. Le AI est en soi très dangereux parce qu'il a une portée trop grande au niveau des accès. Il n'est pas capable de contrôler. On ne contrôle pas bien encore. Ça va être important de commencer à le contrôler davantage, justement, puis s'assurer. Et de mieux plus prendre la présomption que l'AI, parce qu'il est capable de parler, qu'il est intelligent et qu'il est capable de comprendre le contexte. Il ne comprend aucun contexte. Du moment qu'on va être capable de redescendre de notre nuage ou de notre licorne et de comprendre les limitations importantes du AI et donc de développer les outils conséquents en cybersécurité, je pense qu'on va avoir un gain énorme et on va commencer à embarquer dans l'âge d'or, si on veut, des agents AI qui, ceux-ci, vont être capables d'opérer à travers des contextes très, très contraints, mais qui vont être très utiles pour les gens sans tout briser au passage, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Donc, j'espère qu'on va basculer d'un à l'autre. Le MCP, l'espèce de langage qui a été développé par Anthropic pour communiquer entre les agents et d'autres parties tierces, est fondamentalement brisé selon un article. Puis effectivement, je pense qu'on est en train de mourir cette approche-là. Malheureusement, c'est l'approche clé qui est en train de prendre le dessus, parce qu'elle est beaucoup plus souple et beaucoup plus serrée. Il y a beaucoup de problèmes dans le protocole, notamment parce que les fenêtres sont trop grandes, les fenêtres de contexte sont trop grandes, bouffent les fenêtres de contexte. C'est très difficile de réussir à contrôler la sécurité de ça. Il y a eu plusieurs problèmes, notamment il y a encore des problèmes de cette nature-là. Donc, probablement que cette technologie-là va disparaître avant même d'avoir pris sa pleine capacité. Fait que c'est un peu intéressant de voir ça, mais c'est un milieu qui bouge très vite, l'intelligence artificielle. Donc, il ne faut pas s'attacher trop longtemps à des solutions qui sont là parce qu'elles peuvent changer et disparaître dans un clin d'œil. Bref, c'est très, très, très intéressant. Et dernière nouvelle, un peu moins intéressante en quelque sorte, Palantir AI va s'implanter très fortement à l'intérieur de l'appareil militaire américain. Donc, c'est très préoccupant parce que c'est des outils qui sont utilisés pour faire de la surveillance de masse, qui sont utilisés pour notamment faire des armes automatiques à base de décisions automatiques sur base de AI. Donc, c'est très préoccupant, ces éléments-là. Et la ligne rouge ou la chicane avec l'anthropique et tout ça vient mettre en perspective, mais en même temps, dans l'absolu, les gouvernements vont avancer, quoique les compagnies peuvent mettre des lignes rouges comme elles sont. Donc, c'est préoccupant. Comme citoyen, il faut faire valoir notre préoccupation et faire valoir nos enjeux par rapport à ça et justement utiliser les tribunes qui nous sont disponibles pour les faire valoir pour que ces gouvernements-là aient à la limite des balances de pouvoir, là, un peu le fonctionnement d'une saine démocratie avec toutes les institutions qui permettent de balancer le pouvoir et s'assurer qu'il n'y ait pas de corruption, qu'il n'y ait pas de mauvaise situation, ainsi de suite, mais de s'assurer qu'on a les safeguards ou les guardrails tout dépendant dans le système qui viennent justement protéger, si même dans l'absolu, je pense que c'est inévitable que l'intelligence artificielle, comme on la connaît maintenant, entre de façon beaucoup plus importante dans le domaine militaire. Donc, bref, de ce côté-là. Section suivante, au niveau de la guerre, parce que ça continue malheureusement, on est dans plusieurs semaines de la guerre en Iran. Donc, on va commencer justement avec ce volet-là. La Pologne a réussi à repousser des attaques cyber probablement venant de l'Iran dans ce cas-ci où qui vient de l'Iran. C'est très difficile de retracer, mais dans ce cas-ci, ce que j'ai mis dans cette section-là, l'important, ce n'est pas autant d'avoir réussi à bloquer l'attaque que d'avoir limité la capacité des attaquants à avoir de l'intelligence ou information. Parce qu'il y a une partie de découverte qui est faite là-dedans. Donc, ces informations-là alimentent un cursus de connaissances très, très puissant chez l'attaquant qui vont leur permettre d'aller plus vite la prochaine fois et d'attaquer différemment les différentes infrastructures en Pologne. Donc, de s'assurer de repousser le plus loin possible. Et même s'ils ont réussi à limiter ou à bloquer l'attaque, les attaquants ont quand même réussi à capturer un certain nombre d'informations qui peuvent être utiles pour remonter des nouvelles attaques ou d'autres éléments. Allez, l'article, super intéressant. Les paradigmes sont en train de changer à cause notamment de cette guerre-là. La guerre en Ukraine aussi, elle amène d'autres changements de paradigme, mais la guerre en Iran accélère énormément puisqu'il y a beaucoup moins de pudeur maintenant associée à l'usage de la technologie à l'intérieur comme étant un élément prédominant dans les guerres dites hybrides maintenant. Justement aussi, dans la même lignée, les crimes auraient augmenté de 245% selon Akamai, puisque depuis le début de la guerre en Iran, justement, l'Iran ne se gêne plus maintenant pour se faire valoir de ce côté-là. Ça amène d'autres problèmes, étant donné qu'ils sont capables, ils n'ont pas coupé l'Internet, ils sont encore tous ces milieux-là qui sont encore utiles. Donc, ça va manœuvrer, fait que ça change vraiment la dynamique. Ou dans ce cas-ci, de toute façon, ils ne gênent plus maintenant, contrairement à d'autres pays qui ne sont pas en guerre ouverte, où ils vont en plus essayer de renier les actions qui sont posées de leur côté. Dans le cas de l'Iran, il n'y a plus aucun déni des actions, puisque de toute façon, ils sont en guerre, qui a été déclarée par, malheureusement, les Américains, en l'occurrence. Les deux autres nouvelles qui sont très intéressantes au niveau de Stryker, qui a été touché. Ce n'est que le début. Et c'est un rappel aussi, puis celle-là, parce que Stryker a été touché sur le fait qu'ils ont attaqué Intune. Et donc, de faire très attention avec ces éléments-là infonuagiques qui sont exposés. Donc, c'est un moment important de revisiter votre configuration de vos tenants M365, Google Workspace, etc. Justement, parce qu'ils vont être des cibles très, très attrayantes et de très grande importance pour l'Iran en l'occurrence, mais pour toutes les attaques qui sont de cette nature-là, puisque j'ai vaguement l'impression qu'on va aller en accélérant de ce côté-là et qu'il va en avoir de plus en plus et sont rendus relativement indifférents à qui attaque. C'est des attaques de plus d'opportunités juste pour faire des dommages, pour faire valoir leurs points. Dernière nouvelle de sous-section-là, les GPS sont brouillés dans le détroit d'Ormuz. C'est intéressant de voir ça, à quel point ces technologies-là qui vieillissent mal, les bateaux ont des équipements désuets qui sont très difficiles à se protéger contre ce type de brouillage-là. Donc, vont mettre d'autres moyens. Donc, ça s'ajoute aux moyens en place de lancer des missiles sur les bateaux de l'Iran, maintenant brouillé, qui limite encore la capacité de navigation des bateaux qui sont pour la plupart pas capables de naviguer sans ou trop ces équipements-là. Donc, bref, c'est très particulier. On voit les changements, le changement de paradigme. Je pense qu'on va avoir une couple de réactualisations à faire parce que des choses qui nous semblaient acquises ne le sont plus maintenant. L'Ukraine a frappé une usine de d'électronique en Russie. C'est intéressant de le voir. On a eu naturellement un biais positif face à l'Ukraine en l'occurrence, mais il demeure que tout l'engin de propagande, c'est ça qui est intéressant dans cet article-là, le fait que l'usage des blogueurs militaires russes pour justement faire de la propagande interne est en train d'un peu se casser parce que cette même propagande-là n'est pas d'accord avec le pouvoir en place qui cherche à atténuer la portée de l'incident, contrairement aux réels qui disent que plus. En tout cas, ces blogueurs-là disent plus que ça a comme un aspect beaucoup plus critique sur la capacité de la Russie à mener à bien sa mission. Donc, il y a cette espèce de chicane interne-là qui est intéressante à voir là, pour quelqu'un qui s'intéresse de façon très, très éloignée à la guerre, mais qui quand même a un certain degré d'intérêt. Je ne suis pas un spécialiste, d'autant plus que je n'ai pas passé par le chemin du service militaire pour comprendre vraiment ce qui est à l'intérieur, mais d'un point de vue extérieur, civil, c'est intéressant de regarder comment tout ça se passe. Et dernière nouvelle de cette section-là, la Maison-Blanche coupe fait une douche froide sur les compagnies qui parlait un peu de ce qu'on appelle les lettres de marque, ce qui donnait essentiellement l'autorisation à des entités privées à agir de façon régalienne, donc de projeter une violence régalienne sans autre formalité avec les lettres de marque. C'est des vieilles façons. C'est drôle de revoir ces termes-là. Je pense que c'est les pirates qui étaient essentiellement sous le régime des lettres de marque à l'époque, qui opéraient sur des autorisations régalienne. Mais dans ce cas-ci, fait que la Maison-Blanche garde le contrôle, ce qui est une très bonne chose en soi, ne pas déléguer, même si le secteur privé va être un appui très fort, parce qu'on le voit comme notamment avec Palantir, par exemple, qui va se propager à l'intérieur de l'appareil militaire américain. Le contrôle ultime doit être là, même si on n'est pas nécessairement d'accord avec le contrôle qui est en place. Fait que, bref, parce que les compagnies privées ont d'autres intérêts qui ne sont pas alignés avec celles des dirigeants des États. Bref, fin de cette section-là. Section suivante, souveraineté numérique. Deux petites nouvelles fort intéressantes. Une sur le fait que le comité européen sur la souveraineté numérique et tout ce que c'est, justement, chiale sur le fait qu'il y ait du sovereignty washing, là, c'est le fait de purifier certains gestes des grands hyperscalaires, en l'occurrence. Donc, cette chicane-là est intéressante. Elle est fondée, il y a des éléments intéressants à y regarder. Par ailleurs, le fait que les hyperscalaires sont là, il faut admettre que quand le train est passé, on l'a raté. Donc, ça, faut admettre, faut pas jeter les hyperscalers parce qu'ils sont là. Et d'ailleurs, ils cherchent très fort à essayer de chercher une façon de protéger de l'invasion américaine, si on veut, à travers les lois, le CLADAC, même si ce n'est pas le plus épeurant de la gang, même si le FISA est beaucoup plus épeurant. Mais bon, bref, de se protéger comme ça, fait de voir comment les structures se font. Fait que c'est intéressant, mais en même temps, il faut admettre l'éléphant qui est dans la pièce, il est un peu tard. Et de laisser la place. Et ce qui amène à la nouvelle suivante qui est fort intéressante, qui est rapportée par Carbon dans ce cas-ci, où c'est Framasoft a publié deux éléments très importants, deux textes très, très importants et très intéressants au niveau de la souveraineté numérique. Puis pour ceux qui sont au Québec et au Canada qui s'intéressent à ces sujets-là, je crois qu'il y a de la matière très intéressante à aller chercher là-dedans, notamment la suite bureautique qui est développée à coût de millions de dollars, vient relativer un peu les éléments parce que beaucoup de gens pensent que c'est beaucoup d'argent, tout ça, l'argent public et blabla. Et tous les fiascos qu'on a connus autant en Europe qu'au Canada au niveau de l'appareil public qui met de l'argent un peu de façon démesurée et non contrôlée dans l'informatique en général. Donc, il y a un peu cette angoisse-là. Et les chiffres sont très intéressants et très parlants au sens où Le modèle de suite bureautique de type souveraine, comme qui est proposé là, revient à 75 € par année par employé quand on a des chiffres beaucoup plus élevés par mois ou équivalents par mois par employé quand on va utiliser des suites comme M365 ou Google Workspace. Donc, c'est très intéressant. Puis ça met une pression aussi pour peut-être recalibrer le marché, voir comment tout ça va se reconfigurer. Mais il y a un intérêt à regarder. Fait que ceux qui sont très... très intéressé à cet élément de souveraineté, surtout au Québec-Canada. Allez lire ça, c'est super intéressant parce que ça l'amène du contenu fort intéressant et une réflexion qui est beaucoup plus puissante sur comment on doit aborder les choses. Et le second volet de l'article ou de ce qu'il cite, il fait référence à le Airbus numérique. Et l'Airbus étant la constitution d'un grand... fabricant aéronautique européen en opposition à Boeing qui était aux États-Unis. Donc, de prendre beaucoup de compagnies européennes et les ramener ensemble sur le grand chapeau qui est maintenant Airbus. Ça fait quand même longtemps que le chapeau Airbus existe, mais le grand chapeau Airbus. Et ils disent de ne pas aller dans cette direction-là parce que l'avantage du numérique, c'est la décentralisation et non la centralisation, comme l'ont été les moyens de production dans le cas de Airbus, qui est dans ce cas-ci, le modèle était solide. Dans le cas du numérique, non, parce qu'on va recréer le problème qu'on a avec la dépendance avec les Américains face aux Américains, notamment en recentralisant tous ces moyens technologiques-là. Donc, il y a une réflexion à avoir, c'est très intéressant et c'est très chouette d'avoir ce regard-là nuancé parce que au Québec, Canada, on a moins d'expérience de vie avec les notions de souveraineté numérique et toutes les nuances et tous les tons de gris, si on veut faire une analogie douteuse, de cette approche-là, donc de voir comment on peut prendre des bouts qui nous intéressent et qu'on peut avancer avec ce genre de choses-là. Bref, fin de cette section-là. Section suivante, privacy. Sous-section surveillance en vrac, c'est deux nouvelles essentiellement qui parlent que le FBI achète des données en vrac des citoyens américains pour les suivre, pour les traquer. Et c'est essentiellement à travers les brokers qui vont acheter ces informations-là. Donc, c'est l'espèce de débat sur le fait qu'on peut acheter de façon... avec des fonds publics, des données de cette nature-là. Donc, c'est un peu malaisant. Personnellement, j'ai un peu d'inconfort. Cette discussion-là avait lieu avec Cybercitoyen, d'ailleurs, que l'épisode va sortir demain. À ce sens-là, puis genre, j'ai pris vraiment beaucoup de retard. Il faut que je swing ça à Cybercitoyen aussi, puis j'ai pas fait mes devoirs. Bref, on en avait abordé un peu là-dessus sur mon malaise, sur le fait que ces données-là peuvent être achetées sur des brokers. Ça revient là-dessus. Les législations sont plus ou moins claires. Il y en a qui l'autorisent beaucoup, il y en a qui l'autorisent pas. Fait que c'est de voir jusqu'à où on va avec cette économie-là et donc cette publicité-là qui finalement nous permet ou permet à l'État de nous surveiller davantage à des moyens qui sont légitimes parce qu'on a donné nos informations. Donc, il y a des questions à se poser, à savoir qu'est-ce que ces gens-là, tout ça se fait. Bref, c'est très problématique pour moi dans l'ensemble. Fait qu'on a besoin d'une réflexion de société très, très importante à ce niveau-là, justement, pour mieux encadrer l'usage de ça. Pas que ça devrait être interdit, mais il devrait peut-être avoir des chemins plus légitimes comme l'obtention d'un mandat, comme quand on veut faire de la perquisition, de voir s'il n'y a pas des chemins justement sur la balance des pouvoirs, ce que je mentionnais précédemment, qui nous permet de rééquilibrer et ne pas avoir de l'abus de pouvoir de la part de l'exécutif en l'occurrence pour faire ça, où le judiciaire vient justement contrebalancer correctement cet élément-là qui est bien encadré par le législatif. Bref, bien, cours de démocratie 101. Puis c'est intéressant, que les gens commencent à s'intéresser davantage aux aspects démocratiques, la séparation des pouvoirs, parce que c'est des piliers très, très importants qui sont en train de se faire malheureusement malmener à l'heure actuelle. Fin de cette sous-section, Pokémon Go entraîne les robots livreurs. Essentiellement, cette application-là qui fait le cours depuis très, très, très longtemps. Enregistre les images qui sont envoyées et ces images-là servent à entraîner des modèles. Donc, essentiellement, ça l'a servi à aller plus loin. C'est un peu dans un contexte où les données sont utilisées pour d'autres choses. En même temps, il faut comprendre que l'application est gratuite, donc on est le produit essentiellement. Donc, ces images-là sont retournées, sont envoyées à d'autres fins pour l'entraînement, dans ce cas-ci, des livreurs robots qui, justement, sont capables d'avoir une précision extrême par la base de ces images-là, dans lesquelles les GPS sont insuffisants dans les villes pour réussir à avoir ce degré de précision-là. Donc, on est dans un contexte, on va avoir des bénéfices, mais tous ces gens-là, toutes ces personnes-là ont contribué contre leur gré ou sans le savoir en général, qui participent à ce genre de choses-là, parce que malheureusement, on est mal éduqué de ce côté-là. Article qui revient sur le fait que Instagram va cesser l'inscription bout en bout et les dangers sont associés avec ça. Fait que c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres personnes qui, comme moi, s'intéressent aux conséquences qu'il peut y avoir par rapport à l'abandon de cet élément-là et qui est justifié que par le faible nombre. Et je suis allé voir depuis, puis c'est très compliqué à activer. Donc, si c'était une simple case à cocher, je peux comprendre que ça soit fait, que là, on peut l'abandonner parce que personne l'utilise. Mais si on doit connaître ce que c'est, savoir que tout le chemin pour nous mener jusque-là, à ce moment-là, il n'est pas à la bonne place. Fait que c'est un peu de mauvaise foi que ça a été désactivé. Mais bref, les intérêts commerciaux probablement de Meta sont alignés sur le fait que c'est plus intéressant de voir le contenu. Bref, voyons là-dessus, ça va continuer. Si vous avez des opinions, ça en est dans la chose des opinions, parce que je suis un peu perplexe, parce que de ce que j'en connais, et j'en connais pas tant, sur la protection des enfants et des adolescents, c'est flou. Je pense qu'il va y avoir peut-être plus de conséquences négatives à terme, mais bref, si vous avez des stats, des données, j'aimerais savoir justement ce dialogue-là. Comme je mentionnais en pre-show, que moi, dans le fond, j'ouvre le dialogue. Donc, si vous avez des choses en privé, on pourrait jaser de ça, de ces éléments-là, justement pour permettre de raffiner ma compréhension des tenants et aboutissants, des côtés positifs et négatifs de ce qu'il pourrait y avoir à travers ça, que je connais moins bien, essentiellement. Strava Leaks, c'est très particulier parce que c'est pas la première fois que Strava fait fuiter ce genre d'informations-là. Parce que les personnes qui courent, clairement, là, c'est la France qui a été touchée. Les États-Unis l'ont déjà été. Je suis un peu perplexe par rapport à ça. On ne devrait plus. De toute façon, les gens dans l'armée, je ne comprends pas que c'est toléré, ce genre de comportement-là. Il devrait y avoir des règles et des conséquences. Mais je ne sais pas, j'ai pas lu l'article au complet, fait que je ne sais pas s'il y a eu des conséquences. Mais il devrait y avoir des conséquences et des rappels réguliers que ces actions-là, pour les gens qui sont dans l'armée, ne devraient pas exister. Maintenant, c'est ça qui est ça. Puis on n'a pas nécessairement besoin de partager aucun des systèmes gérés par l'armée ou des tenants de ces logiciels-là gérés par l'armée qui sont souveraines, régaliennes, machin et tout. Pourrait être répondre à un besoin de vouloir répondre à ce besoin de communication, de faire du sport, de se motiver, mais avec ses collègues dans l'armée et non avec le grand public, et de faire fuiter des informations comme c'est là. Fait que bref, c'est un peu particulier tout ça. Dernière nouvelle de cette action-là, c'est les démocrates appuient les démarches du pouvoir en place pour renforcer essentiellement, c'est la loi FISA dans ce cas-ci qui est mentionnée dans l'article, mais c'est pas clair si ça couvre que ça. Mais justement, de réaffirmer la capacité d'espionnage du fusil à section 702, qui est une loi très puissante en termes de capacité d'espionnage et d'interception des communications en sol américain, qui affecte des gens à l'extérieur, donc des non-citoyens américains. Donc, c'est un peu particulier, mais en même temps, comme on le voit dans d'autres articles, le FBI abuse de ces... de cette base de données-là. Donc, on a un problème, en tout cas du moins pour les Américains, à tout le moins, un problème d'espionnage interne, ce qui normalement est protégé par les lois américaines. Et pour les étrangers, bien, savoir que vous êtes tenu devant la machine américaine, puis en prenant ça de cette façon-là, ça permet d'avoir une compréhension de ce qui se passe. En tout cas, bref, un état des choses qui nous permet de prendre des décisions adéquates par rapport à ça. Section suivante, la loi. Ça, j'ai peut-être recoupé des éléments qui j'avais de la difficulté à recouper dans les épisodes précédents. Je l'avais déjà fait, là, mettre une session sur le legalese, sur les lois. Fait que je vais l'amener plus comme ça à l'avenir. Ça va être peut-être plus facile pour moi de séparer. Bref, première nouvelle, la vérification de l'âge. Là, cet article-là parle essentiellement de la loi en Californie, mais un peu la folie des législateurs de vouloir faire des lois sur le contrôle de l'âge, l'accès au système d'exploitation. Le fait que les Linux devront vérifier l'âge avant de booter et ainsi de suite. Donc, un décalage très important entre le législateur, son objectif et la réalité d'application des lois qui sont en train de mettre en œuvre. Donc, ce décalage-là va commencer à causer de plus en plus de problèmes. C'est pas positif ce qui s'en vient. Il va falloir qu'on trouve, parce qu'il y a des moyens législatif pour arriver à l'objectif, notamment de protéger les enfants, de protéger les adolescents, mais je crois que c'est pas la bonne traque dans laquelle on est. Et dans la même nouvelle suivante, c'est là, dans la même ligne, Chat Control est finalement débouté, ne réussit pas à avoir un appui suffisant pour continuer son cycle de vie. C'est intéressant, là c'est drôle parce que c'est le parti pirate européen, tout ça. Puis là, je connais un peu ça. Puis encore là, je m'y connais mal en politique européenne, fait que excusez ma méconnaissance. Et si vous avez des informations complémentaires ou m'éduquez un peu sur ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi ce parti-là est l'importance. Mais je trouve que le propos qui est dit est intéressant parce que je ne sais pas s'il est authentique par ailleurs, mais est intéressant sur le fait que l'objectif, puis comme je mentionnais pour les lois précédentes, objectif de protéger les enfants de façon adéquate et de façon efficace. Et pour moi, ces lois-là ne sont pas des moyens qui arrivent à ça. Et même au fait que je me sens agacé parce que je me sens espionné et épié avec ces lois-là qui vont un peu trop loin, à mon sens, de mon impression d'avoir un certain espace à la vie privée, à la protection de mes informations et tout ce que c'est. Donc, je trouve ça un peu particulier, mais c'est intéressant ce qu'elle amène. Et là, il faudrait peut-être justement ramener la conversation sur comment on peut vraiment protéger les enfants avec les lois pour des moyens technologiques. Et dans ce contexte-là, puis la semaine passée, je crois, il y avait la phase qu'en Allemagne, il y a déjà une loi qui est similaire à ça. Et essentiellement, ça submerge les corps policiers de plaintes qui sont non fondées parce que c'est justement, comme je mentionnais précédemment, quand c'est des adolescents entre eux autres qui s'échangent des photos de pornographie, ce n'est pas illégal au sens criminel. Donc, ça l'amène à une zone où ça crée une surcharge sur des choses sur lesquelles les lois n'ont pas d'effet. Par ailleurs, il y a d'autres affaires, d'autres réflexions à avoir sur la pornographie à l'adolescence, entre eux. Mais ça, c'est un autre débat, c'est d'autres préoccupations. Mais bref, de se trouver une meilleure façon d'arriver à mieux protéger les enfants. Puis je pense qu'on le regarde pas de la bonne direction, à mon sens, où on s'en va pas, on n'arrive pas à l'objectif qui est voulu. Et on a juste à plus de contrôle sans réussir vraiment à régler le problème qui est recherché. Donc, pour moi, ça me bug beaucoup, cette dissonance-là entre les deux côtés. Nouvelle suivante, si on est encore dans des lois qui essaient de contrôler tout ce qui se passe, au niveau des imprimantes 3D, les paniques, que ça, c'est l'article, c'est de panique morale. Puis c'est un peu sur la même chose sur la pornographie juvénile. Là, c'est l'impression 3D d'armes à feu. Donc, c'est tous ces éléments-là, d'avoir des registres, des choses comme ça. Donc, il y a des réflexions. Je ne dis pas que c'est faux ou qu'on ne doit pas arriver à ça. Je suis d'accord à ce qu'on contrôle les armes à feu parce que on est, à part les États-Unis, on est dans des pays qui ont des lois très robustes, qui ont démontré leur efficacité pour limiter la violence par arme à feu. Ça ne limite pas la violence aux otages, c'est pas parfait, il y a des choses, mais au moins on voit que c'est les lois qu'on nous avons présentement réussissent à bien cadrer et bien arriver à l'objectif. Dans ce cas-ci, on commence à avoir des éléments complémentaires qui le sont moins. Et je me sens de plus en plus dans des films dystopiques où on voit des marchés, des bazars dans le futur, dans l'espace, où il y a des éléments étranges, où le cyberpunk, le neuromancer, un peu, tous ces univers-là sont en train de se faire. Puis actuellement, on est en train de créer des zones grises et des marchés noirs de par des mauvaises applications des lois ou des mauvaises façons d'arriver à vouloir stabiliser la société, parce que c'est un peu ça l'objectif. Mais bref, il y a beaucoup de discussions à avoir comme ça. Je n'ai pas trouvé d'interlocuteur avec qui je peux débattre sur ça. Donc, je n'ai pas d'espace pour ça pour le moment. Mais bref, ça m'intéresse énormément de débattre là-dessus. Parce qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi améliorer, de stabiliser, de rendre notre société plus sécuritaire. Plus au sens où plus sereine aussi également, en enlevant des éléments comme ça, mais je trouve qu'on ne prend pas le bon chemin pour y arriver, essentiellement. Bref, j'ouvre le dialogue. Là. Pour ceux qui trouvent que j'émets de l'opinion, là, j'ouvre le dialogue. Si vous venez parler, ça m'intéresserait beaucoup. Pas nécessairement de passer sur le podcast, ça peut être des conversations privées, mais ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a des aspects là-dedans qui m'achèrent, mais je ne comprends pas comment résoudre le problème. Puis de toute apparence, il n'y a pas de chemin qui se font. Nouvelle suivante, Apple peut délister n'importe quelle application avec ou sans cause, selon les contrats qui sont faits. Puis c'est un j'ai mis là parce que ces chicanes-là entre Apple et des développeurs d'applications. Ça arrive, c'est aussi un rappel que c'est un marché privé. Google a la même chose. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est bien? Les lois européennes essaient de justement rebalancer ça différemment, de faire que ces marchés-là, ces marketplaces-là soient plus réglementés. Puis parce que c'est un marketplace privé, puis ils sont tellement massifs, effectivement, on doit pouvoir agir de façon avec des lois pour équilibrer les forces de marché, ce qui a toujours existé dans n'importe quel autre système. Dans ce cas-ci, bien, c'est un système comme les autres, c'est un marketplace comme les autres. Il doit le se faire. Fait que c'est intéressant de voir cet aspect-là. Il reste par ailleurs que la plainte en question, elle est insipide. Là. À bien des égards, l'avocat a fait n'importe quoi. Il y a du slop AI là-dedans. Bref, il y a d'autres choses aussi autour qui est intéressant. Mais en même temps, le fait que Apple ait le pouvoir absolu là-dessus, pas de tribunal ou pas de moyen de médiation, ben ça devient à terme achalant, puisque pour de plus en plus de joueurs, ça devient un marché important. Ou on revient, on sort du jardin fermé à la Apple ou Google et qu'on réouvre le marché, mais ça, comme ce qui est exigé en Europe, le side loading. Il y a d'autres problèmes, mais j'ai des nouvelles là-dessus spécifiques qui vont adresser. Là, je me dépêche aussi, j'ai vraiment beaucoup de nouvelles. J'ai vraiment eu de la misère à filtrer en plus. Cloudflare va faire appel du Privacy Shield en Italie en espérant de faire ça. Cette chicane-là continue, il faut juste le mettre là parce que c'est pas terminé. Il y a encore des éléments importants qui sont là, mais je pense qu'il y a d'autres façons d'aborder le problème que par des lois comme le fait l'Italie. Encore là, je pense que c'est une déviation de comment les lois pourraient avoir ou peuvent avoir un effet positif sur la protection des actifs des compagnies notamment, mais aussi de déstabilisation sociale et ainsi de suite. Fait que il y a beaucoup de choses. Fait que c'est une nouvelle qui m'intéresse quand elle pop-up une fois de temps en temps. Section suivante, rouge. Washington dit que le cybercrime, c'est du crime organisé. Effectivement, ça fait plusieurs fois que je le mentionne, il faut changer l'approche. Le changement du vocabulaire va probablement aider les législateurs et les décideurs à faire acte que c'est du crime organisé. Et quand on a du crime organisé, bon, on prend des moyens spécifiques au crime organisé. Donc, ça va peut-être déverrouiller dans la tête des gens cette façon d'approche-là. Et justement, de pouvoir endiguer de façon durable le crime organisé, parce que c'est vraiment un gros problème. C'est pire que pire. Puis ça permet ça attaque principalement les gens vulnérables ou les compagnies vulnérables. Ça ne dit pas que ne faites pas attention, là, c'est que d'être négligent, mais en même temps d'avoir un marché aussi actif au niveau de la criminalité et de la cybercriminalité, c'est un problème. Fait qu'il faut rééquilibrer le côté de ce côté-là. Fait que je trouve ça intéressant qu'enfin, ils vont changer le vocabulaire pour peut-être aider à basculer sur d'autres choses. L'Europe sanctionne des Iraniens ou l'Iran, je ne sais pas clair l'article, parce que, bref, qui auraient eu fait des attaques, qui auraient eu des interventions hostiles sur des pays d'Occident, notamment l'Europe, mais également les États-Unis. Donc, c'est intéressant de voir que maintenant le cyber peut amener à des sanctions. Donc, c'est un point de réflexion, savoir que si des attaques émanent d'un pays, mais ce pays-là peut être sanctionné. C'est un levier. Là, il y a un peu d'exagération avec ces leviers-là, mais ça ne mène pas toujours à des résolutions, comme on le voit d'ailleurs en Iran, ça n'a aucune résolution, les sanctions internationales. Donc, on est dans un contexte hybride, mais bref, de voir qu'il commence à avoir des actions concrètes contre les pays qui hébergent des groupes criminels comme ça. Donc, c'est intéressant de voir ce changement d'approche-là. Changement de technique, les techniques, tactiques et procédures de TTP des ransomware est en train de changer puisque le marché est beaucoup moins lucratif qu'il l'a déjà été. Donc, tranquillement, les choses vont bouger. C'est un très bel article de Google. À la fin, il semble avoir une référence à l'équipe de Flare à Montréal, mais je peux me tromper, mais si ils ont vraiment contribué à cet article-là, c'est vraiment chouette. C'est un très, très gros article. Je vous recommande de le lire au complet parce qu'il est vraiment très, très dense. Je n'en parlerai pas beaucoup plus longtemps que le fait que étant donné que l'argent est en train de disparaître du modèle ransomware, on va probablement voir d'autres façons émerger, d'autres toolings, d'autres approches qui vont probablement émerger justement pour compenser la diminution des revenus d'un côté. Donc, c'est une bonne chose que les revenus diminuent parce que les compagnies sont de plus en plus sécurisées, ce qui est une bonne nouvelle, ou refusent de payer, ce qui est aussi une bonne nouvelle en soi. Donc, d'arriver comme ça, d'appauvrir ce marché-là, Mais en même temps, comme dans toute chose, il va y avoir un rebond. L'article n'est pas très clair sur les rebonds, mais le mettre en lumière. Allez lire, c'est super chouette. C'est très, très dense. Il y a énormément de choses dedans. Fait que c'est très, très intéressant de voir comment ça s'en vient. Deux toolkits d'attaque qui, un, ont été, passant l'un par les Russes, l'autre par l'Iran, je crois. C'est Dark Sword puis Koruna qui peuvent attaquer facilement des iPhones. Cette nouvelle-là me déstabilise un peu parce que, a priori, j'avais toujours eu l'impression que les 0D de iPhone étaient très rares et très dispendieux. Dans ce cas-ci, c'est tombé dans la nature, c'est utilisé par des bandes criminelles. Donc, on a un certain problématique par rapport à ça. Par ailleurs, la recommandation, c'est de mettre à jour votre système d'exploitation, votre iOS. C'est la meilleure façon de se protéger contre ce type d'attaque-là, déjà à la base. Puis deux, si vous êtes partie des personnes qui pourraient potentiellement être ciblées, de mettre le mode lockdown va vous protéger davantage contre ce type d'attaque-là. Mais il va y avoir déjà, j'ai planifié des épisodes avec Guirec notamment, pour parler de cet aspect-là des flottes de iPhone désuets et qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment ça peut devenir un problème, malheureusement. Puis j'en ai un autre avec Guillaume Ross sur lequel je vais apporter le hacklore qu'on va discuter spécifiquement là-dessus. Ça va être intéressant parce que le hacklore dit que ça sert à rien, inquiétez-vous pas de ça. Et dans les faits, maintenant, on commence à voir qu'il commence à avoir un clash. Fait qu'on va avoir une belle discussion avec ça, avec Guillaume, comment on peut refaire du sens du hacklore dans un contexte où les groupes criminels, maintenant, ont des toolkits qui étaient normalement très, très coûteux avant. Et en tout cas, bref, ça va être intéressant d'avoir ces conversations-là, justement. Et quand on parle d'avoir un dialogue, ça fait partie de ça, d'aller plus loin dans les nouvelles que je parle là et les opinions que j'émets. Bon, boîtier KVM IP, neuf failles qui offre l'accès root, ça rappelle le fait que ne pas exposer vos boîtiers KVM, les mettre sur des réseaux séparés, on revient à ce qui se faisait avant. Justement, on isolait le réseau des serveurs justement pour ne pas l'exposer au réseau des postes de travail. Mais on est encore dans la même chose. Faites les mêmes règles. Même si les boîtiers sont vulnérables, vous allez avoir un minimum d'action. Et on revient aussi, puis cette nouvelle-là me chatouille, puis la suivante aussi d'ailleurs. Parce que je vais lire la suivante, puis je vais peut-être faire un aparté d'opinion sur où on s'en va comme système. L'autre, c'est le fait que Amazon aurait vu, AWS aurait vu l'attaque sur le 0D de Cisco, qui amenait à beaucoup de mouvements latéraux, puis beaucoup de choses à l'intérieur des organisations qui ont été touchées. Et là, on est dans un contexte où on regarde encore dans le passé, puis je pense que le modèle, puis avec les AI, ça a beaucoup changé. Les KVM IP, c'est beaucoup ça. On a tellement de morceaux qu'il faut qu'on fasse sens de tout ça. Il faut l'intelligence artificielle surveiller. On ne peut pas juste avoir des IOC. Les IOC sont vite dépassés. On est toujours en train de courir. Donc, il y a vraiment un changement de paradigme. Ça fait plusieurs fois que je trouve que notre domaine est cassé en communication parce qu'on ne communique pas bien. On ne réussit pas à passer notre message aux gens qui devraient l'écouter, qui devraient prendre action et poser des gestes concrets pour se protéger davantage. De un. Puis de deux, on est très, très attaché à notre mode de fonctionnement du passé. Et on le voit encore de nos jours. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans un contexte? Les grandes entreprises ont les moyens de se payer des équipes, parce qu'en général, sont beaucoup mieux protégées. Mais qu'est-ce qu'on fait dans des contextes où, finalement, tout est vulnérable, tout va l'être vulnérable, puis on va voir dans les nouvelles suivantes. J'en ai d'autres qui reviennent là-dessus. Le AI accentue les vulnérabilités. Comment on fait pour réussir dans un contexte où les serrures ne sont pas robustes? Qu'est-ce qu'on met des. Comment on doit faire? Puis je pense qu'on n'a pas encore flippé le paradigme correctement. Puis je pense que matière à réflexion à avoir là-dessus sur comment on change de paradigme, comment on doit évoluer le modèle de protection et comment on doit aller sur autre chose pour aider les organisations avec des MSP, MSSP. Peu importe ce qu'on fait, comment on réussit à faire dans un contexte où tout est invariablement vulnérable. Anyway, dans ce genre de choses-là, puis là, le savoir qu'on l'a vu plusieurs jours d'avance, bien, comment on fait pour réussir à ramener cette télémétrie-là avant que l'attaquant fasse du mal. Bref, Trivi, compression de Trivi par Beau Sécurité, c'est une suite un peu au podcast que j'ai fait avec eux. Je vais tenter le terrain, voir si c'est intéressant de faire une deuxième partie, parce qu'ils ont sorti un deuxième blog là-dessus qui est en cours de rédaction parce qu'ils n'ont pas encore toutes les informations, donc il va s'améliorer avec les jours, que plus ils vont trouver d'informations, mais à valider, voir qu'est-ce que je peux, ce qui est intéressant, peut-être à regarder avec eux autres de ce côté-là. lors des malwares qui s'auto-guérissent, ou le gun qui s'auto-guérit. Cet article-là est intéressant, c'est un grand write-up, c'est très long, avec beaucoup d'aspects, puis fort intéressant d'ailleurs, parce que ça nous permet de voir comment le code peut se faire et comment on peut améliorer notre propre code et comment les malwares l'ont utilisé et comment on trouvait des moyens justement de rester beaucoup plus persistant, d'être capable de résister aux changements et tout ce qui se passe. Donc, bref, une très bonne lecture intéressante pour enrichir puis peut-être nous rappeler certaines notions qu'on a peut-être oubliées avec le temps. Il trouve sans faille dans les drivers Windows pour 600$. Donc, essentiellement, ça, c'est un titre sensationnaliste un peu que Corbin a fait. Mais essentiellement, ce qui arrive, c'est qu'il y a des personnes qui ont trouvé beaucoup de failles dans des clés de périphériques, des drivers dans Windows, qui pour la plupart ne sont pas corrigés à l'heure actuelle parce que les compagnies sont, les choses sont en fin de vie. Et ramène tout le problème des bring your own drivers, c'est-à-dire d'amener des drivers vulnérables qui nous permettent de hijacker un système de solution Windows, de contourner l'EDR, ainsi de suite. Donc, on est comme dans un contexte un peu paradoxal de ce côté-ci. Donc, il y a des questions à se poser, savoir où on s'en va avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec des choses en fin de vie, l'effort de Microsoft de maintenir cette continuité dans le temps, comment on peut assurer la compatibilité longtemps dans le temps comme Microsoft le fait, mais tout en protégeant les systèmes. Il y a beaucoup d'éléments à réfléchir là-dessus, donc c'est très préoccupant. Et quand je disais que le terrain change, c'en est un exemple, on est capable de trouver sans faille qui est capable de faire l'élévation de privilège sur des drivers dans Windows pour 600$. Donc ça, c'est un travail de recherche. Ça légitime qui a été faite la déclaration faite auprès des fabricants des drivers dans ce cas-ci. Et là, c'est de penser que des attaquants ont la même capacité à l'heure actuelle. Donc, on est dans un contexte où la symétrie entre les attaquants et les défendeurs est en train de se grandir. Donc, on n'est pas capable de changer le paradigme. On va se retrouver avec un problème dans vraiment pas très longtemps où finalement tout va se faire casser de façon un peu trop facile, malheureusement. Donc, on est un peu dans de la dystopie. Bref, ça serait intéressant d'avoir une réflexion de comment on peut flipper les choses pour retourner l'avantage aux défenseurs. Nouvelle suivante, Delve. Fausse compliance, compliance as a service qui est faux. C'est intéressant parce que ça ramène aussi, ça déclare une fraude qui existe beaucoup, où il y a plusieurs compagnies qui garantissent la conformité à plusieurs cadres normatifs, dont notamment SOC 2 dans ce cas-ci, ISO, ou d'autres de cette nature-là qui sont nécessaires pour faire de la business à des grandes organisations et qui sont complètement fausses. Donc, c'est intéressant de le voir. Tout ce travail d'enquête qui a été fait, allez lire, c'est super long comme article, mais il est très important parce qu'il ramène quand même beaucoup de points et comment nous, qui avons besoin des vraies certifications, comment se défendre contre ce type de fraude-là qui existe, qui malheureusement répond à un besoin parce que les gens veulent aller vite et ils veulent pas payer les gros audits, donc ils sont prêts à payer pour des firmes comme ça qui sont un peu moins scrupuleuses. Et la fuite d'informations que Dell a connue démontre cet élément-là. Jaguar Land Rover, il y a un article très intéressant qui relate que le fait que ce qu'ils ont appelé WatchGuard, essentiellement les vérificateurs mentionnent que c'est un très mauvais précédent que le gouvernement britannique bail-out Jaguar Land Rover, en l'occurrence, après l'attaque cyber. Puis c'est un peu ce que je mentionnais justement quand je commentais ça, cette nouvelle-là. Au moment où c'est arrivé, ça crée des espaces où les compagnies ne prennent pas leurs responsabilités, que les gestionnaires, les hauts gestionnaires, les exécutifs ne sont pas imputables des actions qui sont faites, qui ont mené à ce problème-là, donc à tout le côté. Mais en même temps, je comprends que le gouvernement britannique n'avait comme pas le choix aussi de l'autre côté, puisque le nombre d'emplois directs et indirects liés avec le fait de l'arrêt de production de Jaguar Land Rover est quand même très, très important. Donc, on a pris en deux places. Mais il y a d'autres façons d'arriver à cette chose-là de façon s'assurer que les compagnies prennent leurs responsabilités en cyber réellement et que ce n'est pas les contribuables qui se retrouvent à payer la facture d'une négligence de la part de ces exécutifs-là. Section suivante, la bleue. Une compagnie a réussi à débusquer les faux travailleurs de la Corée du Nord. Article très intéressant, très long, mais très intéressant sur le fait que pendant un processus d'embauche, une compagnie s'est rendue compte qu'il y avait la potentialité d'un fraudeur et au lieu de couper la démarche-là, a décidé de collaborer avec les FBI notamment pour réussir à débusquer celui-ci et donc de couper un réseau assez complet de fraude de cette nature-là, de travailleurs qui viennent extraire des salaires de compagnies principalement américaines, mais pas exclusivement, Et justement, ça va financer le régime nord-coréen, en l'occurrence. Donc, d'arriver dans cet état-là et donc de trouver les lieux d'hébergement en sol américain où les laptops sont envoyés justement pour frauder et donner l'impression qu'on est en sol américain et qui sont ensuite contrôlés par des gens en Corée du Nord. Donc, c'est très intéressant à les lire. Si vous allez voir toute la démarche, toutes les étapes, ce qu'a réussi, les doutes et après. Ça pourrait probablement vous inspirer quand vous allez avoir vos propres processus d'embauche pour vous assurer que vous n'avez pas de fraude de cette nature-là dans vos environnements. Par contre, dans les pays francophones, on est encore relativement épargné parce que les Nord-Coréens ne parlent pas encore très bien français, parlent mieux anglais. Même s'ils ne parlent pas un super anglais, ils parlent quand même mieux anglais. Somme toute, donc, c'est une cible qui est faite. Mais bref, c'est intéressant de le voir. Fait que c'est une belle vue de l'intérieur de comment tout ça fonctionne. Une nouvelle suivante, puis aussi très long article, puis qui va sur une suite parce que c'est le premier de plusieurs. Qui explique la sécurité du processus de démarrage des Mac depuis le CPU M1. Donc, toute la chaîne de confiance qui est montée démarrer le système d'exploitation. C'est super intéressant. Il y a tous les endroits où il y a des vulnérabilités qui ont été trouvées, tout ça. Fait que c'est très, très, très beau travail de recherche. Si vous êtes intéressé à ce genre de sécurité-là, de chaîne de confiance, et tout, les lire, c'est génial, c'est un bijou. Nouvelle suivante, Android 7 va bloquer les apps qui abusent les services d'accessibilité. C'est un peu en réponse à tous les problèmes qu'il y a sur Android, sur le fait que ces services d'accessibilité là, permettent de lire l'écran et justement d'aller voler des informations aux utilisateurs. Ça va amener des situations complexes. Je ne sais pas ce que ça va faire à terme, mais bref, c'est une première étape pour limiter. Mais je pense qu'il y a des problèmes encore là. On revient, est-ce qu'on faudrait changer le paradigme? Il y a peut-être quelque chose de brisé dans l'ensemble du paradigme qui permet aux attaquants de fleurir et dans tous ces environnements-là et de façon abusive jusqu'à un certain point, de pouvoir exploiter ces problèmes de design-là finalement. Puis on essaie de repatcher comme ça avec des petits éléments un par-dessus l'autre qui arrivent. Donc, bref, c'est peut-être une réflexion à avoir. Puis là, je suis vraiment dans le thème de fourreur réfléchir comment on fait de la cyber. C'est vraiment c'est vraiment ça mon. Mon thème d'aujourd'hui sans même le savoir. Après ça, le Japon va autoriser les proactive cyber defense qu'ils appellent, mais c'est seulement essentiellement hackback pour le 1er octobre. Donc, c'est intéressant de voir qu'ils commencent à avoir des mouvements de ce côté-là pour justement pour améliorer le retour comme ça. Fait que bref, ça va, les temps changent essentiellement. Fait que ça, c'est intéressant de voir comment ça se passe. Super article sur comment Electronic Arts est en train de préparer son système anti-triche pour les PC ARM. Comme j'ai parlé la semaine dernière, tous les systèmes qui vont protéger justement contre la triche, les jeux en ligne. C'est super intéressant de le voir qu'il y avait tout le système sur Windows, mais là, c'est sur Linux. Fait que, bref, ça décortique un peu, c'est complexe et très intéressant pour ceux qui aiment aller du côté très profond, très matériel. L'article est vraiment sharp. Pour aller là, les articles connexes aussi permettent d'aller très, très loin en termes de contenu. C'est super, super le fun. ARXIV, je ne sais pas comment on le prononce dans le fond, qui est essentiellement le lieu de publication de beaucoup de recherches. Puis sur laquelle je m'appuie énormément, surtout pour l'intelligence artificielle où il y a des papiers super intéressants qui sont publiés, des papiers de recherche, va se séparer de l'université Cornell pour trouver une façon, une forme d'indépendance. Pas que c'était nuisible de travailler à Cornell, mais c'était limitant parce que la façon que les budgets sont faits, la façon que l'argent, ainsi de suite, de pouvoir fonctionner, donc de trouver une meilleure capacité à financer ce lieu de publication-là qui est très intéressant, gratuit. Accessible à tout le monde. Donc, bref, c'est vraiment, vraiment très sharp. Et je l'utilise énormément. Puis pour ceux avec qui je fais de la veille, je vois souvent des papiers qui arrivent de celui-là parce qu'il est super intéressant pour amener, surtout en intelligence artificielle. Dernière nouvelle à cette section-là. Le sideloading au niveau de Google a changé un peu la stratégie du chemin pour faire du sideloading pour être plus sécuritaire. C'est essentiellement par l'augmentation des délais en différentes actions pour essentiellement briser le modèle actuel de forcer ou d'installer un sideloading très rapide pour hacker le système. Fait que ça ne fait que ralentir le processus dans ce cas-ci, donc ça va limiter le modus operandi actuel. Probablement que les attaquants vont retrouver d'autres choses. Encore une fois, le sideloading est un problème, même si je faisais référence au fait que les marketplaces d'Apple et Google sont nuisibles en termes de compétitivité. somme toute, puis que les législateurs sont en train de s'y attaquer. De l'autre côté, le sideloading n'est pas une solution efficace, surtout en cybersécurité, parce qu'on ouvre d'autres problèmes. Donc encore là, on a voulu régler un problème en créant un autre qui est probablement beaucoup plus nuisible, somme toute, que le fait qu'on est dans un marché captif dans l'occurrence. Donc c'est très, très préoccupant de voir ça, mais de voir, faudrait trouver une stratégie pour ouvrir le marché, nécessite d'être dans un marché captif, mais tout en assurant que les mesures de cybersécurité minimales pour que les personnes qui n'ont pas de connaissances puissent, en toute sécurité, télécharger des applications. Est-ce que les systèmes de solutions mobiles soient beaucoup plus durcis ou peu importe la stratégie, mais bref, de trouver une façon d'y arriver. Quelques petites nouvelles ou insolites, là, mais vraiment plus divers dans ce cas-ci, que je trouve très intéressante, mais que je n'ai pas réussi à mettre dans une section. Ubuntu 26 va faire mettre l'affichage des mots de passe en sudo. C'est-à-dire que historiquement, quand on fait notre mot de passe en sudo, quand on tape le mot de passe, il n'y a rien qui s'affiche à l'écran et ça embarque. Là, depuis la version 26, il va y avoir les astérisques qui vont apparaître. Fait qu'on va être capable de voir la longueur du mot de passe. Ça crée un énorme débat. C'est intéressant de lire l'article parce qu'il y a du débat, il y a des plus, des moins. Puis chacun a un modèle de risque associé à ça. Donc, de voir comment tout ça fonctionne. Un peu comme le hackler, le modèle de risque, il faut vraiment le comprendre pour le faire. Et c'est deux points de vue très forts qui se combattent. Par ailleurs, pour ceux qui veulent maintenir le fait que ça renvoie rien à l'écran, il est possible de désactiver l'affichage des petits. Mais allez voir, le débat lui-même est super intéressant parce que ça amène des réflexions profondes et fondamentales sur la cybersécurité et pourquoi les choix ont été faits il y a très longtemps et pourquoi ceux-ci doivent être soit changés ou soit conservés. Donc, bref, allez voir. Article suivant sur le fait des clés privées. Essentiellement pour la signature, mais pas exclusivement. C'est un article qui fait la promotion du fait d'avoir plusieurs clés pour signer, donc d'avoir plusieurs signataires et qu'il faut un minimum de clés, faut un quorum de clés pour réussir à signer ou chiffrer le contenu. C'est très intéressant comme approche. Ça fait longtemps que je le vois en même temps qu'il n'y a pas nécessairement d'application de ça qui est très, très forte. L'article est très intéressant parce qu'il amène le fait qu'on perde une clé ne brise pas la signature ou ne classe pas tout. Le fait que maintenant, quand on signe avec une seule clé, bien, dès que la clé est divulguée, ce qui arrive malheureusement trop souvent, ça vient détruire toute la chaîne de confiance de tout ce qui a été signé précédemment avec la clé. Donc, on est dans un contexte comme ça que quand on a deux clés, bien là, on vient de doubler la résistance à ce genre de choses-là. Et plus on augmente le nombre de clés minimales dans un pool de clés, bien plus on rend ça résilient à ça. Puis en entreprise, il n'est pas rare qu'on doit avoir plusieurs signatures, notamment pour certaines dépenses ou certaines structures. Donc, cette notion-là n'est pas étrangère des entreprises d'avoir plusieurs signataires. Là, ça serait intéressant de le voir atterrir de façon beaucoup plus formelle et plus étendue en cybersécurité parce que c'est des choses qui fonctionnent depuis longtemps. Les algos fonctionnent comme ça depuis longtemps, donc on est capable d'arriver à cette stratégie-là. Super intéressant. Puis, bref, l'article explique aussi un peu comment ça fonctionne de façon humaine pour que les gens qui n'ont pas nécessairement un PhD en crypto soient capables de comprendre comment ça fonctionne de signer avec plusieurs clés, mais c'est super intéressant comme approche. Donc, c'est quelque chose peut-être à mettre de l'avant. Article sur le fait que les médias sociaux sont créent des dommages pour les enfants. J'en viens encore là-dessus. J'en ai eu d'autres précédemment. Je l'ai mis dans une section comme ici. Parce que là, c'est des études qui commencent à démontrer ça. Là, le fait de plus en plus de pays veulent aller vers là. Fait que c'est intéressant. Allez lire. Puis, enrichir ça. Puis la dernière, puis c'est un sujet un peu plus léger, mais on va venir sur une note beaucoup plus légère, sur que la flexibilité sur le télétravail est probablement favorise la productivité. Il y a une énorme volonté de retour au bureau pour beaucoup. Moi, je suis un fervent dans le fond de la flexibilité plus que de l'hybride ou quoi que ce soit, d'être dans un contexte où quand ça fait du sens d'être au bureau quand ça fait pas de sens. Mais je comprends que dans certains contextes, c'est plus compliqué sur des grandes populations d'employés d'arriver avec ce genre de réflexion-là ou de mettre dans les mains de gestionnaires qui sont peut-être mal outillés pour faire ce genre de décision-là. Mais d'amener cette réflexion-là ou d'amener cette culture-là, d'amener les gestionnaires peut-être avec un peu plus de marge de manœuvre ou de réflexion là-dessus, des outils pour les aider à comprendre les moments où c'est utile, les moments où c'est pas utile d'avoir du télétravail et d'amener les équipes à réfléchir là-dessus. Bref, très, très, très long épisode. Vraiment désolé de ça. J'avais tellement de nouvelles à vouloir, plus un très gros préambule sur le fait que le commentaire que j'ai obtenu, puis je me sentais obligé de devoir faire des clarifications justement pour amener l'espace correctement parce que dans les faits, Oui, c'est un sous-ensemble. Le fait que je fasse l'opinion avec le volet actualité, quand dans les autres, je suis moins dans l'opinion, j'appuie avec des gens, avec des experts de domaine, donc je suis en dialogue avec d'autres personnes. Donc, c'est un peu ça. C'est aussi mes opinions sont vues de cette façon-là. Bref, merci beaucoup, c'est d'avoir été jusqu'au bout. Je suis à Montréal cette semaine. Pour ceux qui y sont, levez la main si vous avez écouté jusqu'au bout. Et je suis en France pendant 3 semaines ensuite et lever la main aux alentours. Donc, bref, c'est quand même me déplacer un peu en Europe. Lever la main pour si vous voulez me prendre un verre, un café, ou jaser, ou parler de projets, ou faire podcast, ou venir débattre de sujets que j'ai abordés sur le podcast que vous croyez que c'est beaucoup plus intéressant de le faire en personne. Puis des fois, effectivement, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ces conversations-là en personne que par écran et texte interposé. Donc, bref, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous avez écouté jusqu'au bout, mais en tout cas, respect si vous l'avez fait. Puis, on va continuer comme ça la semaine prochaine.